Le musée. Le musée, il y a un musée à Crépy. Mais oui, le musée de l'archerie. La coulisse. Pourquoi les coulisses? Bon, on va voir. Ouais, allez, c'est parti. Le musée à coulisses.
Bonjour chères auditrices et auditeurs, c'est Frédéric, vous écoutez RVM, Radio Valois-Mulsien. Et nous sommes dans nos studios, place Jean-Philippe Rameau, à Crépy en Valois, avec Marion Roux-Durand, directrice du musée de l'archerie et du Valois. Bonjour Marion.
Bonjour Frédéric.
Et Marie Adamski, chargée des collections du musée. Bonjour Marie.
Bonjour Frédéric.
Voilà, vous allez écouter l'émission mensuelle Le musée à coulisses pour savoir tout ce qui va se passer dans le mois qui va suivre. Alors, est-ce que vous allez bien, mesdames?
Oui, très bien.
Oui,
très bien.
Bon, voilà. Cette année, vous avez fait un grand événement. C'était le premier, je crois, qui s'appelait le chantier des collections. Est-ce que vous pouvez faire un petit bilan? Ça continue? Comment ça se passe? Vas-y, Marie.
Alors, oui, tout à fait. On peut faire un premier gros bilan de ce chantier des collections qui a débuté à l'automne dernier et qui est achevé pour 95%, on va dire, du chantier. Donc, effectivement, on a une vue un peu globale et c'est les heures des premiers bilans à tirer. Donc, en fait, là, actuellement, donc ce chantier des collections, il a été déjà mis en place dans le cadre du déménagement de l'intégralité des réserves du musée vers d'autres réserves externalisées au sein de la ville. Et il concernait plus de 7000 objets. De ces 7000 objets, donc je vous ai dit, il y a 95% qui ont été déménagés et c'est tous les objets qui ont été reconnus comme étant sains et ne reste que 5% d'objets qui sont soit moisis, soit suspectés d'être infestés par des bêtes qui doivent être traités avant d'être déménagés. L'idée étant qu'ils ne contaminent pas le reste des collections.
Et ces 5%, ça correspond à quel objet?
Alors, il y a tout type d'objets, mais pour ce qui est des infestations, en fait, on va plutôt parler en termes de matériaux. Donc, ça peut être le bois qui est infesté par des bêtes qu'on appelle des insectes xylophages, ou tout ce qui est peau, poils, enfin, les fourrures, etc. Il y a aussi, pour le moisi, des textiles, du cuir. Enfin, voilà, on pense plutôt, en tout cas, en termes de matériaux, plutôt qu'en type d'objet.
Très bien. Et tous ces objets, ils étaient installés où avant d'être nettoyés et puis après déménagés?
Alors en fait, ils étaient dans nos réserves et au fil du chantier des collections, donc où tous les objets ont suivi les mêmes étapes, la même chaîne opératoire, ils ont été repérés et mis de côté. Donc là, vraiment, ils ont été mis en quarantaine et sortis du circuit pour pouvoir être traité avant de le réintégrer et d'être déménagé.
Il va y avoir plus de place au musée maintenant?
C'est effectivement le but. Enfin, pas tant que ça, parce que finalement, les plus de 7000 objets tenaient dans à peine 45 mètres carrés. Donc on était quand même face à une situation d'urgence, d'extrême encombrement et puis de mauvaises conditions de conservation pour les œuvres. Donc en réalité, on va gagner de la place, mais c'est des locaux qui sont eux-mêmes à traiter. Parce que les infestations ne viennent pas de nulle part et on sait qu'elles viennent probablement du bâti. Ensuite, elle se contamine d'œuvre en œuvre, mais la transmission, enfin le patient zéro, c'est quand même le bâti. Donc il va y avoir aussi un gros travail en interne avant de pouvoir récupérer cet espace laissé vacant.
Très bien. Vous m'aviez expliqué dans d'autres reportages et émissions qu'il y avait 5 phases. Donc là, vous êtes, je crois, la phase C. Est-ce que vous pouvez me dire la phase D?
Oui, on peut faire un petit peu de teasing.
Voilà.
Alors, pour ceux qui nous ont suivis attentivement depuis le début de l'aventure, c'est vrai qu'en fait, on a eu la chance de pouvoir être entouré de différentes équipes. Une équipe qu'on appelle l'AMO, c'est-à-dire l'assistance à maîtrise d'ouvrage, qui est constituée de 4 personnes qui sont conservateurs, restaurateurs du patrimoine et qui, dans la première phase, ont diagnostiqué l'intégralité des collections et du chantier, en fait, tout simplement. et des phases à mener. La seconde phase de l'AMO consistait à aménager les réserves, parce que les nouvelles réserves étaient des locaux vides. Leur troisième phase était de superviser le recrutement et d'une équipe du chantier. Et la phase D consiste à superviser la chaîne opératoire qui va s'appliquer aux objets infestés. Parallèlement, une seconde équipe a été recrutée lors de la phase 3 de l'AMO, qui est l'équipe du chantier des collections, alors cette fois-ci constituée de plus de 8 personnes, à la fois des conservatrices, restauratrices du patrimoine, et aussi des techniciennes de conservation, qui sont, elles, les chevilles ouvrières, qui ont mené vraiment très concrètement ce chantier pas à pas, qui se sont occupées des œuvres saines, et qui reviendront au moment du redéploiement des œuvres infestées. Et donc, tout ça pour vous dire que la phase D, qui va débuter prochainement, consiste en fait à confier à une entreprise spécialisée les œuvres qui ont été repérées comme infestées, pour les désinsectiser, pour les traiter, et puis pour qu'elles nous soient rendues saines, comme le disait Marie, pour qu'il n'y ait pas de contamination dans les nouveaux locaux.
Voilà. Très bien. Alors pendant toute cette période, le musée, on ne pouvait pas aller voir, on ne pouvait pas trop visiter les salles qui étaient prises par cette équipe de chantier. Comment ça s'est déroulé avec les visiteurs? Est-ce qu'il y avait un parcours spécial, Marie?
Alors en fait, le chantier des collections, effectivement, s'est installé dans une des salles, une des grandes salles du musée, la salle qu'on appelle la salle des traditions, qui a été totalement remaniée pour faire de la place et laisser l'équipe travailler. Par contre, elle a été utilisée, on va dire, aux trois quarts par l'équipe, et le public pouvait voir dans le quart restant ce qui se passait derrière une vitre, enfin voilà, et avec surtout tout un parcours d'exposition qui permettait d'expliquer qu'est-ce qu'il voyait, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce que c'était que ce chantier derrière la vitre. Après le départ de l'équipe du chantier, le but est de remettre en place cette salle comme elle était auparavant et de la réouvrir pour le mois de juin.
Très bien. Est-ce que vous avez mis en place un livre où les gens pouvaient dire ce qu'ils en ont pensé?
On a plusieurs supports, effectivement, et notamment un livre d'or à l'accueil. On recueille aussi toutes les impressions des visiteurs avec plaisir. Et puis, la magie des réseaux sociaux fait aussi que les gens commentent. Donc, on reçoit des avis différents, en tout cas sur ce qui est du suivi de l'exposition qui a accompagné le chantier des collections, et également les vidéos, la web-série, en fait, qui a été tournée sur YouTube et diffusée notamment via Facebook. Les retours sont plutôt positifs, parce que c'est vrai qu'on se rend compte que les visiteurs n'ont pas du tout l'habitude de suivre cette partie immergée du travail. Nous, c'est aussi un plaisir de mettre en valeur ce travail-là qui nous accapare beaucoup, qui est très important, mais qui n'est pas forcément valorisable. Donc, les retours ont été positifs.
Eh bien, on va écouter le choix de Marion et de Marie, je crois. Non?
Si, tout à fait. C'est très assumé.
Voilà, c'est assumé. C'est nous, les vilaines petites bébêtes d'Alain Schneider. On écoute.
C'est nous les vilaines petites bêtes, dans les coins ça perlipopette. On chante, on danse, on fait la fête.
Pas si bête, pas si bête.
Nous ne sommes pas analphabètes.
Minuscule, rikiki, microscopique, et tout petit, on passe partout, partout, on passe debout. Minuscule, rikiki, microscopique, et tout petit, on passe partout, partout, on passe debout.
Quand les grands, les gros nous embêtent, on pique, on gratte, on déchiquette. Et même si tout pète sur la planète,
pas si bête, pas si bête,
on prend la poudre d'escampette.
Minuscule, rikiki, microscopique, et tout petit, on passe partout, partout, on passe debout. Minuscule, rikiki, microscopique, et tout petit, on passe partout, partout, on passe debout.
Bye.
kiki, microscopique et tout petit. On passe partout, partout, on passe debout. Minuscule et rikiki, microscopique et tout petit. On passe partout, partout, on passe debout. C'est nous les vilaines petites bêtes.
Pas si bêtes, pas si bêtes.
C'est nous les vilaines petites bêtes.
Pas si bêtes, pas si bêtes. Pas si bêtes, pas si bêtes. Pas si bêtes, pas si bêtes.
Vous êtes sur RVM, Radio Valois-Mulsien, c'est le musée à coulisses. Et tout de suite, comment fait-on pour tuer toutes ces petites vilaines bêtes qui passent partout dans le musée? Alors, qui veut
alors,
donner la solution?
Si on fait appel à des spécialistes, je vais laisser Marie nous en dire plus.
Alors, effectivement, autant les moisissures sont traitées par les équipes du chantier directement, autant les objets qui sont infestés par des insectes, ça demande du matériel, ça demande des installations, et donc on est obligé de faire ça par un prestataire extérieur. Donc le but, enfin le principe, c'est qu'on va placer tous les objets dans une pièce étanche, et quand on va refermer la porte, on appelle ça une anoxie dynamique, on va enlever l'oxygène, donc anoxie c'est sans oxygène, et on va le remplacer par l'azote, et en fait du coup ça va tuer tous les insectes et toutes les bêtes qui sont à l'intérieur à tous les stades de développement, donc que ce soit larves ou adultes. Et donc on va laisser ces objets pendant à peu près 3 semaines dans cette pièce, sans rien faire d'autre que les laisser dans cette atmosphère sans oxygène. Et normalement, quand on réouvre, on n'a plus qu'à dépoussiérer, etc., et à récupérer des objets qui sont sains. L'avantage de ce traitement sans oxygène, c'est que ça ne nuit pas aux œuvres. C'est-à-dire que pour elle, le taux d'humidité, la température reste constant durant tout le traitement. Et donc, il ne se passe rien d'autre que de tuer les bêtes. Et donc, ça marche pour à peu près, pour tous les types de matériaux. Et donc, tous les objets peuvent être traités comme ça, en groupe.
Et puis, toutes les petites vilaines bêtes seront...
Adieu.
Oxy. On peut dire que l'exposition chantier des collections ne va pas se renouveler de sitôt.
Non, elle a pris fin. L'idée était d'accompagner les parties visibles. Là, on tâche de continuer de valoriser ce qu'il se fait alors via la websérie, comme on l'a commencé, là, via cette émission. Et puis, à terme, on souhaiterait pouvoir éditer le tableau de bord de cette aventure, parce que c'est vrai que c'est encore une fois un moment assez historique. Et puis, on s'est rendu compte par les échanges professionnels qu'on a pu avoir avec des collègues d'autres musée qu'il existe autant de formes de chantier des collections qu'il existe de musées, tellement les contraintes sont spécifiques. Même si sur le papier tout se ressemble, le protocole est le même, la théorie est la même, on la connaît toutes dans ce milieu muséal, mais néanmoins il y a une adaptation au terrain et à la réalité qui est essentielle. Donc voilà, pour le grand public, au musée, ça sera terminé, mais on n'exclut pas non plus l'idée de pouvoir en reparler via des bilans, des conférences, des rencontres, pour ceux que ça pourrait intéresser.
Très bien, merci Marion. Toutes les salles maintenant sont réinvesties.
C'est en cours.
C'est en cours, d'accord. Et alors au mois de juin, qu'est-ce qui va s'y passer au musée?
Alors effectivement, le musée a réouvert fin mars, et donc parallèlement à ce travail de conservation qu'on vous a décrit, les activités et les animations ont repris pour le grand public et également le jeune public. Et donc reviennent nos traditionnels ateliers de printemps, les mercredis 7 et 14 juin. On a suivi un thème, alors on est très Moyen-Âge cette année dans notre programmation pour nos visiteurs attentifs, et donc le thème est centré sur celui des troubadours et du divertissement au Moyen-Âge. Comme souvent, le thème est un prétexte pour accueillir des groupes d'enfants entre 7 et 11 ans. Et l'idée, c'est de suivre un parcours qui à la fois nous mène dans les salles, en rapport avec les collections, en rapport avec une thématique générale comme le Moyen-Âge. Donc de faire passer des informations pédagogiques tout en s'amusant. Et ce sont des journées complètes puisqu'on commence dès le matin à 10h30 avec les bébés lecteurs. Et donc les médiathécaires sont là pour accueillir les bébés, lire des histoires en rapport avec le thème. Nous avons l'après-midi, les ateliers pour les 7-11 ans.
Le mois de juin, effectivement, il y a les deux journées dont Marion vous a parlé, le 7 et 14 juin. Alors, il faut faire vite pour ceux qui sont intéressés, puisque le 14 juin est complet. Il reste des places pour le 7 juin, pour l'atelier Troubadour et Ménestrel, donc à 14h. Et ensuite, du coup, ces deux journées se terminent, on a oublié de le dire, par une heure du conte, de 16h à 17h, qu'il a ouvert à tout le monde sans inscription à partir de 6 ans.
Très bien, donc faut téléphoner au musée pour s'inscrire.
Exactement.
Et c'est gratuit.
Et c'est gratuit, oui.
Super. Et vous m'aviez parlé aussi d'atelier que vous aviez commencé l'année dernière et qui a eu un bon succès pour fabriquer des arcs et des flèches.
Alors, on anticipe un peu sur l'émission du mois prochain qui vous en dira davantage. On réitère une proposition qui avait bien fonctionné l'an passé, qui était de pouvoir participer à des stages. Donc, il y a déjà eu un stage qui a été organisé pour le tir instinctif souple en compagnie de Jean-Michel Benazeraf. Mmh. Et là, il s'agit de stages de fabrication d'arcs, à la fois pour adultes et aussi pour enfants, avec Laurent Messias de l'entreprise LM Nature et Bois. Et donc, ça se passe au musée. Là aussi, c'est sur inscription. Ne pas hésiter à nous contacter pour en savoir davantage. Ce sont des stages payants, puisque là, il s'agit vraiment de fabriquer son arc et de repartir avec son arc. Hein, c'est du sur-mesure. Et on apprend une technique, un savoir-faire, une maîtrise de certains outils, une initiation au tir à l'arc. Donc, c'est des stages très complets qui auront lieu en juillet et août. Et on a doublé le nombre de séances par rapport à l'an passé.
Vous avez déjà fait votre arc, mesdames ?
Non. Ça nécessite un petit peu de temps.
On en a assez sous la main.
Je crois qu'il y a une conférence au mois de juin de Sylvie Tepper.
Oui, alors on continue notre cycle médiéval avec Sylvie Tepper qui revient le 20 juin pour nous parler de comment on mangeait au Moyen-Âge.
Très bien. Elle avait déjà commencé par la vie à la campagne, la vie à la ville. Et
tout
là, c'est
fait.
La troisième.
Ouais.
Et il y en aura d'autres aussi.
Oui, alors on fait une petite pause durant l'été et on revient en septembre, octobre.
N'hésitez pas à aller la voir parce qu'elle est vraiment très intéressante. On peut se quitter et puis reprendre le mois prochain pour de nouvelles informations.
Avec plaisir pour se retrouver.
Très bien. Pour visiter le musée, c'est rue Gustave Chopinet dans le Vieux Crépy. Le téléphone 03 44 59 21 97 pour réserver avec les enfants pour les ateliers. Et aussi l'adresse du site www.musée-archerie-valois.fr. Et il y a peut-être un YouTube.
Vous tapez soit Musée de l'Archerie, soit Musée de Crépy en Valois. Vous nous trouverez sur Facebook, sur YouTube. Et puis, il y a aussi la possibilité sur le site internet de s'inscrire à la newsletter pour ne rien louper de nos événements, de notre actualité.
En tout cas, merci Marie et merci Marion.
Merci beaucoup.
Bah, merci. À bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
C'était le musée à coulisses.